Aujourd'hui, Joseph de Hamadan, un kabbaliste et son œuvre. La pensée de Rabbi Joseph de Hamadan. Exposé de Charles Mopsik. La découverte d'une œuvre comme celle de Rabbi Joseph de Hamadan a été une très grande surprise pour moi. Certes, j'avais l'habitude des textes des kabbalistes comme Moïse de Léon, comme Joseph Jikatilia, comme le Zohar, bien entendu. Je pensais que c'était à ces figures, essentiellement, que l'originalité la plus grande revenait, en cette fin du XIIIe siècle, dans l'Espagne du Nord. En fait, dès la lecture de quelques lignes des écrits de ce kabbaliste, j'ai eu une sorte de... plus que d'une surprise, de choc, je crois. Le choc d'une rencontre avec un auteur qui ne mâchait pas ses mots, qui était à la fois capable de longs développements, et en même temps qui avait une puissance d'expression, de rassembler dans une même phrase, dans une même proposition, une idée, et de l'exprimer sous la forme d'une sorte d'aphorisme, marquant, cinglant. Et ces aphorismes, bien sûr, liés à ce que la Kabbale a développé par ailleurs, dont on peut retrouver d'autres formes chez d'autres kabbalistes de l'époque, ont une marque particulière, une sorte de signe distinctif dans les écrits de Joseph de Hamadan. Un signe distinctif qui tient d'abord à leur clarté. Effectivement, Rabbi Joseph de Hamadan, qui est un auteur obscur, paradoxalement, est peut-être l'un des kabbalistes qui s'est exprimé le plus clairement. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à dissimuler ce qu'il pensait à travers ses écrits, à travers un style compliqué. Bien au contraire, je crois que on peut lui savoir gré d'avoir tenté de révéler en termes assez crus, toujours bien sûr très, très noble et très distingué, mais cru dans le sens... un style direct, des éléments, des formulations considérées comme secrètes, ésotériques, chez d'autres kabbalistes. C'est aussi le choc d'une rencontre avec une profondeur inaccoutumée. Bien entendu, ce n'est pas le seul kabbaliste dont on peut reconnaître une grande profondeur. Mais Joseph de Hamadan a ceci d'unique, c'est que cette profondeur est perceptible, je crois, par tout à chacun, y compris par des noms d'initiés, des personnes qui n'ont jamais lu, qui ne sont jamais entrées dans des textes de Kabbale auparavant. Non pas qu'il écrit à l'intention d'un large public, ce n'est pas tellement cela qui fait la profondeur, la possibilité d'accéder directement à la profondeur qu'il y a dans ses écrits. Je crois plutôt que c'est grâce à sa propre... énergie intérieure, à l'énergie qu'il met à déployer ses idées à travers ses écrits. Même si le personnage est très obscur, très mystérieux, on ne sait rien de sa biographie, on connaît à peine son nom. On se demande d'ailleurs si son nom, le nom qu'on lui donne, Joseph de Hamadan, eh bien le nom du kabbaliste qui est l'auteur des textes auxquels qu'on lui attribue. Le paradoxe, c'est que même si tout cela concourt à faire de ce personnage, un personnage énigmatique, mystérieux. Ses écrits, bien qu'il ne parle que très très rarement, qu'il ne fasse que très rarement allusion à la personne, eh bien, permettent de sentir l'homme derrière l'écrivain, derrière l'écriture elle-même. Une écriture à la fois surprenante dans sa façon tranquille, calme, de dire des choses profondément bouleversantes. Il ne part jamais dans des grandes déclarations, ainsi qu'on peut en trouver dans les écrits de Moïse de Léon et dans le Zohar, des grandes déclarations tonitruantes annonçant des secrets qu'il va révéler. Ou mettons en garde le lecteur contre la tentative de les révéler. Je crois qu'il a une écriture extrêmement modeste, fine dans son ciselé, et en même temps, qui est capable d'aller, je crois, au fond des choses. Bon, je voudrais bien sûr maintenant donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Mais je voudrais quand même préciser auparavant qu'il ne s'agit pas d'enthousiasme pour un auteur particulier, mais plutôt, c'est vrai, je dirais, d'une sorte de fascination que j'ai éprouvée quand j'ai découvert ces volumineux ouvrages dont l'auteur, finalement, demeure extrêmement obscur, plus obscur que celles que les figures des autres kabbalistes de son époque, qui sont elles-mêmes d'ailleurs très obscures. C'est le plus obscur des auteurs obscurs, Joseph de Hamadan. Et pourtant, la cinglante clarté de ses écrits, de ses propos, a quelque chose de singulier et qui nous impose une interrogation. Eh bien, à propos d'interrogation, l'exemple que je vais donner porte sur une forme interrogative. Alors, il s'agit du commentaire sur la Genèse dont un fragment nous est parvenu. J'ai eu l'occasion de traduire et d'éditer ce commentaire sur la Genèse. Mais comme on va le voir, il s'agit non seulement d'un commentaire sur la Genèse, mais aussi d'un commentaire sur le livre de l'Ecclésiaste, en tout cas sur certains versets du livre de l'Ecclésiaste. À propos du verset 2.12, que je vais citer, il va donner l'explication suivante. Citation donc d'Ecclésiaste 2.12 d'abord. « Alors je me suis tourné, moi, pour voir la sagesse, la démence et la folie, car qu'est-ce que l'homme qui viendra après le roi ? Ce qui s'est fait auparavant. » Joseph de Hamadan commente, premier commentaire dont nous ne dirons que quelques mots seulement. Il se réfère à l'âme, au moment où l'homme s'en va vers son séjour éternel. L'âme dit « Alors je me suis tourné, moi, pour voir la sagesse, qui est le char d'où l'âme pure avait été extraite. » La démence et la folie, c'est les dimensions de gauche, les bandes et les forces impures qui se sont séparées de la dimension de gauche et d'où est issue la mort. Développons un tout petit peu ce premier commentaire. Donc c'est l'âme qui parle à la première personne, selon Joseph de Hamadan. C'est elle qui dit « Moi, je me suis tourné pour voir la sagesse ». Cette sagesse, pour le kabbaliste, ici désigne le char, c'est-à-dire l'entité divine, la structure dans le monde divin d'où l'âme pure avait été extraite. L'âme de l'homme, l'âme pure, Neshama Teora, comme en hébreu, est une émanation directe d'une réalité divine qui est appelée le char, c'est-à-dire les séphirotes. L'âme en est extraite, c'est-à-dire qu'elle procède de ce monde divin. Autrement dit, l'âme est l'âme pure, la Neshama, Théora, est une entité divine, mais elle en a été extraite. Autrement dit, c'est une espèce d'émissaire du monde divin dans le monde d'ici-bas. Et bien entendu, elle aspire à revoir, comme le dit le verset, à se tourner vers la sagesse, à revoir la sagesse. Il ajoute, la démence et la folie. C'est la dimension de gauche, donc l'âme s'est aussi tournée pour voir, pour explorer la dimension de gauche. Et plus précisément, ce n'est pas n'importe quelle partie de cette dimension de gauche, démence et folie. Démence et folie désignent les bandes et les forces impures, c'est-à-dire les forces de l'autre côté, comme dira le Zohar, les forces démoniaques, les forces sataniques, qui se sont séparées de la dimension de gauche, autrement dit qui n'appartiennent plus au monde divin, qui s'en sont complètement détachées, et c'est de ces forces impures d'où est issue la mort. La mort est donc une émanation du monde divin, mais qui lui a échappé totalement, qui s'est séparée du monde d'où elle est issue. Elle n'a plus affaire avec le monde divin, elle n'a plus de relation avec lui. Elle en est une branche coupée. Et ce domaine de la mort, qui est appelé ici les bandes et les forces impures, et selon le verset de l'Ecclésiaste commenté, il s'agit de ce qui est appelé démence et folie, autrement dit c'est l'insensé, eh bien tout cela rentre dans le domaine de la mort, qui est un surjon de la dimension de gauche. La dimension de gauche qui, elle, la dimension de gauche, c'est la dimension de la Gevura, de la puissance, de la rigueur divine. Et de cette dimension-là a surgi et sorti la dimension des bandes de l'autre côté, dimension de la folie, de l'insensé, et la mort qui en est issue. Alors ici, nous retrouverons une idée, bien sûr, qui remonte au début de la Kabbale espagnole castillane, chez Moïse de Burgos, chez les frères Acohen, avant Moïse de Burgos, les frères Acohen de Soria, selon laquelle il y a une émanation du côté gauche, et ce qui caractérise le côté gauche de l'émanation divine, c'est que elle va au-delà des limites, des frontières du monde divin. Elle franchit ses frontières et elle en sort. En fait, c'est comme si elle, délimitée par son énergie intrinsèque, son énergie excessive, son excès d'être par rapport à la position, à la place qui lui était assignée, ce débordement constitue une sorte d'hors-champ, d'hors-jeu. Et voilà que Joseph de Hamadan, qui développe ici une idée que l'on retrouve quasiment identique dans le Zohar, parle de l'existence d'une dimension qui est extérieure au monde divin. Il emploie le terme « séparer les forces et les bandes et les forces impures qui se sont séparées de la dimension de gauche ». Autrement dit, l'accusation de panthéisme dont on nous a rebattu les oreilles pendant si longtemps et encore aujourd'hui à propos de la Kabbale ne tient pas, puisque au moins un domaine échappe à l'extension de l'univers appartenant à la divinité, n'est pas englobé par la divinité. C'est le monde des forces impures. C'est le champ où se joue l'insensé, la folie, la démence, et c'est la mort. Voilà le terrain où s'exclut le divin, et qui exclut le divin. Comment, après une telle affirmation que l'on retrouve de multiples façons dans les textes de la Kabbale médiévale espagnole, dire encore que les kabbalistes ont développé des idées panthéistes. C'est vraiment un non-sens, je crois. Mais bon, ce n'était là qu'une remarque en passant. Commentaire séparé, et c'est là ce commentaire séparé qui va être pour nous l'objet d'une interrogation plus approfondie. Car qu'est-ce que l'homme ? Reprise donc du verset de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que l'homme ? Joseph de Hamadan écrit. C'est la Shekhina, appelée qu'est-ce que l'homme ? Voilà une formule qui mérite un regard singulièrement acéré. La Shekhina, qui est un synonyme de Dieu, du divin pour l'homme en tout cas, non pas de Dieu dans sa transcendance, mais du Dieu proche, du Dieu pensable, de la présence de Dieu. Eh bien la Shekhina, c'est qu'est-ce que l'homme ? Dans son texte, Joseph de Hamadan emploie l'expression « Mahahadam » en le reprenant du verset de l'Ecclésiaste, bien entendu. La Shekhina, c'est « Mahahadam ». Qu'est-ce que l'homme ? Dieu, c'est une question qui questionne l'être de l'homme. Et c'est cela, finalement, l'idée profonde que ce kabbaliste ici délivre à l'occasion du tournant d'un de ses commentaires, et à propos d'un verset de l'Ecclésiaste, qui est par ailleurs un ouvrage qui a attiré l'attention des kabbalistes pour son caractère énigmatique, pour son caractère à la fois philosophique et énigmatique, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que le livre de l'Ecclésiaste est loin d'être un livre mystique. On pourrait même dire, en tout cas un regard extérieur et rapide pourrait même dire que c'est peut-être le livre le moins mystique de toute la Bible juive. Mais en réalité, il n'en est rien. Et ce texte semble, à travers la lecture qu'en font les kabbalistes, Moïse de Léon aussi en a fait une sorte de commentaire à travers certains de ses écrits, et dans le Zohar aussi, on trouve beaucoup d'éléments de commentaire sur l'Ecclésiaste. tout cas, pour les kabbalistes, et Joseph de Hamadan en particulier, c'est dans l'Ecclésiaste et dans ses formules que l'on va déceler, deviner une forme de théologie ou d'athéologie qui va permettre de transformer Dieu comme affirmation, affirmation pour l'homme, affirmation de l'être de l'homme à travers sa représentation, sa projection, la projection de lui-même comme être supérieur, transformer cette représentation en interrogation. Dieu, c'est qu'est-ce que l'homme? En propre terme, le kabbaliste dit Maha-Haddam, c'est cela la Shekhina. Alors évidemment, si l'on va un peu plus loin dans le décodage des mots employés par le kabbaliste, il est bien évident que l'on repère immédiatement ici le rapport entre Ma et Adam. La Shekhina, c'est Maha-Adam. On peut sans doute l'entendre littéralement, bien que le kabbaliste ici ne fait que le laisser supposer, mais l'autre lecture, et de Joseph d'Hamadan, et du Zohar, et d'autres kabbalistes contemporains, nous permettent de le percevoir. Ma-Adam peut s'entendre comme la Shekhina, c'est le Ma, c'est le quoi de Adam. Adam désignant soit la Séphira Tiferet, soit l'ensemble des Séphirot, à l'exclusion de la dernière d'entre elles, la Séphira Malchut, qui est désignée par la Shekhina, et que le mot ma, quoi, qu'est-ce que c'est? Que ce mot désigne. Ma-Adam, c'est le quoi de Adam, le quoi au sens peut-être de la cuidité de Adam, c'est-à-dire de l'homme d'en haut, de l'homme à l'image duquel l'homme d'en bas a été créé, c'est-à-dire du système des Séphirot. Le ma de Adam, le quoi de cet homme, c'est la Shekhina, c'est la dimension féminine du monde divin. Le kabbaliste continue son exposé. Donc, qu'est-ce que l'homme qui viendra après le roi? Il dit. Qui méritera de s'asseoir auprès du roi? Qui est-il et où est l'âme qui adhérera à son créateur au moment où elle quittera le monde? Ce qui s'est fait auparavant, à savoir, après qu'au ciel, il a été décrété qu'il est passible de la géhenne et qu'il a quitté le monde sans repentir, quel avantage pour l'âme d'aller après la gloire pour demander le pardon, puisqu'il ne s'est pas repenti, face à ce qu'a fait auparavant, et a établi le tribunal d'en haut, comprenant 71 membres. C'est l'âme qui a la nostalgie d'une adhésion à son Créateur, de se réunir avec la source d'où elle avait été détachée, extraite, qui est ici en question, selon le kabbaliste. Le roi désigne bien entendu le roi divin. Et il se demande s'il y a une seule âme, qui est-il et où est l'âme qui adhérera à son créateur au moment où elle quittera le monde. Ici, le kabbaliste délivre une sorte de vision assez pessimiste sur le sort de l'âme, apparemment, puisqu'il nous dit que il est quasiment impossible de trouver vraiment une âme digne après son séjour terrestre, après avoir vécu toutes les vicissitudes et accompli des fautes de toutes sortes, quelle est l'âme qui va pouvoir vraiment donner un accomplissement à sa nostalgie d'un retour à sa source, en Dieu, fondre à nouveau dans l'être divin? C'est sous forme de question à nouveau qu'il avance cette proposition. De même que la Shekhina, c'est la question de l'homme sur son être, c'est le qu'est-ce que l'homme? De même, l'âme, c'est la question où est-elle? Qui est-elle? Qui est-elle à la fois en tant qu'elle est détachée de l'être divin d'où elle procède, c'est-à-dire de sa source? Elle n'a plus de légitimité, elle s'est avilie, elle est devenue impure. Alors comment une âme qui n'est plus pure comme elle l'avait été, peut à nouveau prétendre rejoindre sa source divine, alors qu'elle a été condamnée à la géhenne. Alors évidemment, ici, cette condamnation à la géhenne, avec allusion au tribunal constitué des anges, constituant la cour divine, le conseil divin, le tribunal d'en haut, qui a condamné cette âme à la géhenne, c'est une reprise d'éléments eschatologiques, relatives à l'eschatologie de l'âme, assez courante dans le Midrash et dans la littérature rabbinique ancienne, dans le Zohar. Mais il y a plus que cela dans ce court passage. Il y a cette idée que, et bien entendu, d'autres textes de Joseph de Hamadan vont nous éclairer, à propos de la gêne en particulier, il y a cette idée que, d'abord, la gêne, pour le kabbaliste, il nous le dit explicitement, n'est pas un lieu de châtiment à proprement parler. C'est un lieu de purification. En quoi purification? Joseph de Hamadan nous dit qu'il n'y a pas de différence fondamentale, ontologique, entre ce qu'on appelle communément dans la religion le paradis, le jardin d'Éden, si on veut, et la géhenne, l'enfer. Qu'il s'agit de la même chose. En réalité, ces deux expressions désignent deux façons d'être en relation, d'avoir affaire avec la lumière divine. La modalité paradisiaque, c'est-à-dire que l'âme est capable de recevoir cette lumière, d'en être illuminée, réchauffée, de se nourrir de cette lumière, ou bien la manière infernale d'être mis en relation avec cette lumière divine. Lumière divine désignant non pas la vérité simplement, mais l'être divin lui-même, le divin comme émanant, comme rayonnant, comme rayonnement, c'est-à-dire comme se dépassant lui-même, allant de façon incessante vers autre que lui. Cette lumière divine, accueillie selon le mode paradisiaque, édénique, alors est une nourriture, une félicité pour ceux qui sont capables de la recevoir. Mais elle est un enfer pour les méchants, ou pour ceux, plus simplement, qui ne sont pas exempts de fautes, et tous les hommes sont concernés. Elle va brûler, elle va être une souffrance pour eux, parce qu'elle établit un contact tellement disproportionné entre une pureté absolue, la pureté divine, et une impureté qui est celle de l'âme, un contact qui est une contradiction en soi. Et donc, elle va agir sur l'âme, cette lumière divine, sur l'âme pécheresse, sur l'âme souillée, elle va agir comme une sorte d'acide décapant ou de feu purificateur. Elle va causer une souffrance, une douleur, la douleur de ne pas pouvoir justement en jouir, la douleur de subir cette lumière comme un obscurcissement, comme un éblouissement qui rend aveugle. Est une peine pour les yeux. Ce passage au feu de la géhenne est bien entendu toujours momentané. Il vise une purification. Quand cette purification est obtenue, symboliquement on dit qu'elle peut durer pendant 11 mois au maximum, mais en réalité on peut imaginer que ces 11 mois désignent autre chose que du temps ordinaire et qu'elle est effectuée de façon quasiment immédiate en termes de temporalité, si l'on peut employer le concept de temporalité dans un tel contexte. Il s'agit du monde divin et du retour d'une partie du monde divin à lui-même, finalement, parce que l'âme qui retourne dans le monde divin, c'est le monde divin qui se reprend, qui se retrouve dans sa complétude. Autrement dit, l'être divin là, se purifie lui-même en purifiant l'âme, pour qu'elle puisse se retrouver à l'intérieur du monde divin, elle puisse adhérer, s'attacher à lui pleinement et indistinctement. Tant que la purification n'est pas faite, alors l'âme reste extérieure au monde divin. Elle ne peut pas le rejoindre. Et c'est finalement ce qu'il nous est dit dans la dernière formule. Quel avantage pour l'âme d'aller après la gloire pour demander le pardon, puisqu'il ne s'est pas repenti. Dans la mesure où on ne peut se repentir, vraiment que pendant le séjour terrestre, pendant la vie humaine, après la mort, après que l'âme se soit séparée du corps, c'est trop tard. Malgré cela, l'âme demande quand même pardon. Elle a la nostalgie de se réunir à sa source. Mais à quoi bon? Il faut que le passage par la gêne soit accompli et que la purification ait eu lieu. On trouve dans le Talmud l'idée, déjà, pour revenir au passage antérieur, que la question sur l'homme, qu'est-ce que l'homme, désigne une sorte d'émanation ou de création divine, directe, de création céleste en tout cas. Puisque le Talmud nous dit qu'il faut entendre le mot « man », la manne qui tombait dans le désert et dont les Hébreux se nourrissaient, cette manne qui tombe du ciel, il faut l'entendre comme signifiant « man hu ha-adam ». Qu'est-ce que l'homme? La manne, qui avait tous les goûts délicieux que l'on voulait ressentir, eh bien, c'était la question qui pose l'être de l'homme, qui le met en relation avec l'inédit et l'inouï de sa situation. Mais dans le Talmud, il s'agissait seulement de la manne, qui était entendue comme signifiant « qu'est-ce que l'homme ?» Pour Joseph de Hamadan, « Mahadam, qu'est-ce que l'homme ?» Eh bien, ça ne désigne pas la manne, simplement, qui tombe du ciel. Ça désigne plus précisément la Shekhina, la présence divine. C'est l'idée que la présence divine peut être dite à travers la question « qu'est-ce que l'homme ?» est une idée qu'il va falloir maintenant creuser.